C'est l'Artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Pourquoi c'est connu ? Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission l'Artichaut, où une artiste un peu folle vient parler des tableaux qui ont fait l'actualité du 19e et du 20e siècle avec Malo.
Une belle émission culturelle et artistique qu'on propose aux auditeurs, auditrices du 101.7.
Comme vous en avez de la chance. L'Artichaut, le fabuleux destin des œuvres du 19e et du 20e siècle.
Avec carotte.
Dans votre assiette, l'artichaut à la carotte, c'est très bon, sauce malo, c'est délicieux. On va parler d'art, mais c'est un artiste qui va vous parler d'art, hein. C'est pas un critique ou un auteur, un écrivain, je ne sais pas.
Ta-da-da-da. Hey, 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 bonjour carotte.
Bonjour Malo.
Bonjour auditeur, auditrice de l'artichaut. C'est un nouvel épisode que vous retrouvez ce soir, il est 20h. Et vous nous écoutez, et je ne sais pas si vous avez écouté nos épisodes précédents, mais on s'est fait la réflexion du fait qu'on n'avait encore pas parlé d'artistes féminines, d'icônes du 19e siècle, comme on aime faire depuis tous ces épisodes. Alors, avant de parler d'une artiste en particulier, est-ce que, Carotte, tu saurais nous parler un petit peu de la place de la femme dans le monde artistique à cette époque-là ?
Bah exactement comme dans notre émission, c'est-à-dire elle arrive très tardivement. donc, on peut considérer que ce qui nous est resté de la préhistoire et des fresques pariétales, des mains, des pieds, des dessins d'animaux, de scènes de chasse, ont probablement été faites par des femmes autant que par des hommes. Donc la femme, on peut considérer qu'elle est rentrée dans l'histoire de l'art en même temps que son compagnon, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de préjugés concernant la désignation de sa destinée à la pauvre créature femelle. Et du coup, après, bon, ben, ça se perd un peu dans la nuit des temps, puisque finalement, la femme, elle sert avant tout de muse. Et donc, on s'en sert pour, comme une poupée, l'habiller, la décorer, la maquiller, la peindre, la sculpter, etc. Mais l'accès dans un atelier d'art lui est fortement interdit, si elle est d'autant de bonne famille et si elle n'est pas non plus la fille elle-même d'un artiste. Donc ce qui fait que dans l'histoire de l'art, les quelques filles dont on se souvienne, comme par exemple Artemisia Gentileschi, étaient la fille elle-même d'un peintre. Donc c'est par la filiation qu'elles avaient le droit à la formation. Sinon, on les cantonnait, bien évidemment, toujours dans le cercle de l'intimité, de la cuisine, des enfants et du ménage. Alors, quand Louis XIV va enfin faire l'Académie des Beaux-Arts, donc c'est en 1648, il va dire qu'il va y avoir une forme de parité homme-femme, mais dans les sessions, il n'y aura que 3 à 4 femmes par session. Donc c'est ridicule. Et le fait est qu'elles n'ont pas droit aux salles où il y a les nus qui posent. Donc elles ne peuvent travailler que sur des croquis avec des gens qui sont habillés avec des toges. Parce que sinon, c'est obscène. Donc, du coup, ben, c'est vraiment pas simple. Donc, il faudrait faire appel à des écoles privées, à des cours de dessin privés, des cours de peinture privés, faites par un maître de son temps qui accepterait de recevoir des filles. Donc, il faut déjà que le gars, il soit super libéré et évolué. Donc, il faut attendre. Mais de leur côté, les filles, elles n'attendent pas. Parce que, par exemple, les filles de bonne famille, qui sont un peu éduquées comme un peu des geishas, donc qui doivent soigner, nourrir et divertir leur mari. Donc, elles reçoivent des cours de piano, elles reçoivent des cours de dessin, des cours de peinture. Et puis, en général, ça dure jusqu'à tant qu'elles se marient. Et puis, le jour où elles se marient, elles arrêtent leur activité artistique, même si elles y trouvaient du plaisir et qu'elles y excellaient. On arrive par exemple au temps moderne, donc là on va arriver directement dans notre époque moderne. Donc 1985, il y a une exposition énorme qui a lieu à New York au MoMA, une rétrospective qui doit regrouper le meilleur de la peinture et de la sculpture de ces 100 dernières années, quoi. Et de l'art contemporain dans le monde, donc hors frontières et vraiment large, quoi. Et donc, en fait, il y a 169 signatures. Et combien tu dirais qu'il y a de femmes là-dedans sur les 169 signatures ?
Allez, 4 ?
Non, un peu plus, il y en a 13. Okay. Il y a 13 femmes sur 169. Donc, scandale des guérilla girls, parce que pendant ce temps-là, les femmes ont monté elles-mêmes des associations pour défendre leurs droits artistiques, parce que dans la musique, c'est exactement le même problème. Aujourd'hui, le nombre de femmes compositeurs en musique reconnues, tu pourrais m'en citer un nom ?
Zazie.
Ouais, mais en fait, je sais pas. Enfin, c'est vraiment non, très pareil. Peu, oui, c'est très peu. Pareil pour les musiques de films ou tout ça. Donc, du coup, on a affaire toujours aux mêmes préjugés. Donc, c'est pour ça que des femmes qui vont réussir à couper ces chaînes et à transgresser les idées reçues, telles donc Berthe Morisot, qu'on aime beaucoup, et je vais vous raconter pourquoi on adore.
Il ne doit y avoir que la peinture, Edmond. C'est elle qui nous sauve de tout.
Allez.
Moi, j'aimerais vivre ma vie, pas la rêver.
Vous ressentez les choses, n'est-ce pas ? Sans pouvoir vous en servir.
Ce Manet a un talent certain, même s'il n'est pas très académique.
Vous comprenez qu'on ne peut peindre que ce qui nous pousse à peindre.
Non seulement elle est passée au travers de tout ça, elle a dû attendre la mort de son père pour quand même pratiquement se syndiquer à la société des artistes peintres et accepter de faire les expositions avec les impressionnistes. Donc elle a dû attendre la mort de son père. C'est comme si aujourd'hui ce serait un coming out, tu vois. Enfin, tu vois là quand même les gens ils attendent, hein, pour ils veulent pas que l'autre génération soit tuée par leur désir de vivre. Du coup, elle a beaucoup de mérite et tu sais que je suis une adoratrice de Manet et elle a compté énormément dans la carrière de Manet et en fait, on pourrait mélanger leurs noms quoi pour inventer du Morinet par exemple parce que leur évolution picturale est intimement liée.
J'allais dire que leur art est assez proche aussi. Enfin, du coup, je suis pas une connaisseuse comme toi, mais je me suis posée sur quelques œuvres de Manet et que c'est pas une œuvre totalement à l'écart de ce que lui pourrait créer.
Bah, on sent bien que c'est la même école. Donc, en fait, c'est l'école de la lumière qui fait en sorte de ne pas utiliser le noir ou de l'utiliser juste par petites touches pour donner du contraste. Et donc que la lumière qui est sur les habits, qui est dans l'air, sur les choses et tout ça, se transmute en couleurs sur la toile et aussi les sujets. Donc il y a aussi une énorme évolution dans les sujets puisque on est passé de l'académie à une peinture donc d'abord ecclésiastique, puis royale, puis de conquête et de guerre. Et enfin, ces gens-là nous font découvrir leur maison, l'intimité, les intérieurs. Et une façon aussi de travailler en extérieur avec les éléments et particulièrement la mise en scène de la lumière qui est ce pourquoi on les a appelés les impressionnistes car en fait c'est une impression qui est donnée d'un objet par rapport à un autre juste par des mini contrastes de couleurs et Berthe Morisot va briller d'excellence pour cette technique, elle va carrément pousser les boutons full on pour carrément aller jusqu'à des images tellement inondées de soleil que tout est flouté et que presque tout se dissout dans la lumière.
Vous êtes la femme de tout le monde.
Éternellement choisir de poursuivre un rêve.
Et donc, pour les yeux de cette fin de Second Empire, c'est totalement, c'est totalement novateur que ben, les yeux, ça pique très, très, très fortement leurs yeux. Alors, on peut reparler maintenant un peu plus précisément de Berthe Morisot, qui... Tu veux bien ?
Eh bien, Berthe Morisot, de ce que moi, j'ai pu voir dans ce fameux bouquin, donc 1841-1895, elle a pris part à quasiment donc, toutes les expositions impressionnistes de 1874 à 1886. 1886, c'est mieux. Berthe Morisot compte parmi les grandes artistes du 19e siècle et parmi les plus actives. Et aujourd'hui, du coup, on s'intéresse à son œuvre qui est intitulée « Le berceau ».
Alors, cette œuvre, Le Berceau, qui arrive déjà, c'est
1872.
Donc, elle a déjà rencontré Manet. Elle n'est pas encore mariée. Elle va se marier en 1974 avec son frère. Donc, en fait, il faut
c'est
savoir...
terrible.
Non, parce que tout ça, c'est aussi des histoires de famille. Donc, il faut savoir qu'on est dans la haute bourgeoisie parisienne. Que les parents Morisot, Degas, Manet se connaissent, se côtoient, que donc l'autre génération, celle des enfants, se connaissent et se côtoient, que certains ont un amour pour la peinture particulier et donc ils vont régulièrement au Louvre. Et pendant cette première partie de la jeunesse, le Louvre est ce qu'on appelle le travail des copistes sur les œuvres antiques ou anciennes ou classiques. Vont leur permettre de se reconnaître et de sympathiser un peu plus tous autour de la peinture et du travail sur les reproductions et leur vision et la façon dont ils ont envie de faire évoluer la peinture. Donc c'est là qu'elle va croiser aussi Fantin Latour. Le Louvre, c'est comme le grand bistrot des artistes de talent. C'est l'endroit, le meeting point où tous les gens qui ont envie de travailler sur les mêmes sujets se retrouvent et se rejoignent. Donc elle n'est pas toute seule dans sa famille, elle a aussi une sœur, Edma, qui va faire de la peinture avec elle avant de se marier. Et du coup, toutes les deux vont réussir à se faire payer des cours de peinture par d'abord un maître classique qu'elles ne vont pas du tout aimer, Burke, et puis par un autre un peu plus ouvert, un peu plus dans la recherche. Et puis finalement, elles vont finir par avoir Corot comme professeur de peinture. Donc c'est carrément un peu l'excellence. Et puis après, ils vont commencer à travailler... ensemble avec d'autres peintres et à former un petit groupe d'avant-garde qui va vouloir travailler sur donc ce qu'on va nommer en se moquant un peu de l'impressionnisme, c'est-à-dire une concentration sur la lumière, des petites touches de peinture et des tons qui vont finir par devenir de plus en plus clairs, de plus en plus clairs. Donc on pourrait dire on commence un peu avec Manet qui continue un peu d'utiliser du noir et des contrastes. Mais il faut dire que par exemple Manet, lui, il va continuer à aller au salon officiel et il va un peu traîner la patte pour se mettre en marge et rejoindre le groupe des impressionnistes. Que Berthe Morisot, bille en tête, tudut, elle va bien vouloir se lancer dans la partie. Et donc c'est très compliqué parce que c'est deux chemins qui s'offrent à vous en tant qu'artiste. Donc il y a le chemin officiel d'être accepté au salon de chaque année et donc de commencer à avoir une cote des nouveaux clients, des collectionneurs, des galeristes qui s'intéressent à ton travail. Soit, hop, de passer de l'autre côté du tourniquet dans le salon des refusés, qui va finir par avoir tellement et tant de peinture qu'ils vont l'installer dans les salons Nadar au boulevard des Capucines, où c'est beaucoup plus grand. Et où, du coup, là, en fait, va pouvoir s'exposer la peinture qui est en train de naître et qui fait part grande à la sensibilité. Là où en fait on demandait vraiment une technique et un œil et une maîtrise, là on touche à l'émotion, on touche au sensible, on touche à l'âme, on touche à l'amour. Alors du coup, cette expression-là, elle est complètement nouvelle pour les peintres. Exposer une œuvre intime de quelqu'un sur son mur, c'est complètement aberrant. Par contre, avoir son empereur sur un cheval, ça, c'est tout à fait charmant.
Les toiles qu'elle expose à cette époque-là, elles évoquent un pinceau en liberté, un petit peu vers quelque chose de nouveau aussi.
La fluidité, c'est-à-dire pas se restreindre. une forme de petite folie du pinceau et des mini-touches. Et là où elle excelle, c'est que c'est tout dans des tons pastels. Donc elle va être vraiment la championne du blanc avec des tout petits points de rose, des verts pâles, du blanc mélangé avec de l'argenté, des toutes petites touches de jaune ou d'argenté côte à côte. Ce qui fait que ça va, elle va, voilà, ça floute.
Puis il y a une grande précision du trait.
Ouais, c'est des tout petits pinceaux. En musique, on pourrait assimiler ça à une fugue. Tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose de très aérien, très léger, très rapide et qui a une profondeur de vibration et de chant, enfin qui va aller jusqu'à l'éternité, quoi. Donc en fait, elle a charmé les plus sensibles, comme Stéphane Mallarmé ou même Zola, qui vont faire partie de leurs intimes et qui vont aussi, par leurs écrits, défendre corps et âme. Stéphane Mallarmé a vraiment soutenu avec un enthousiasme permanent et un peu foufou comme lui seul sait l'être le travail de Berthe Morisot, dans un monde où bien sûr elle est toujours la seule femme. Hein. Donc là, on a vraiment affaire en plus à une femme qui est belle, en plus d'être rebelle. Donc déjà choisie pour, comme modèle pour ses traits physiques, la chaleur de son visage, avec vraiment une carnation très joliment harmonisée, avec des cheveux châtain foncé, des longs cils bruns, des yeux bruns profonds. Elle était belle, en plus elle était grande, elle était élancée et elle était aussi prête à toutes ses folies. Quand on voit par exemple les poses qu'elle prend en toréador dans un collant d'homme, et qu'on voit bien que c'est une femme et qu'elle nous lance ce regard mutin, enfin voilà, c'est de la pure provocation pour l'époque qu'elle ose là.
Incarne un peu le mouvement avant-gardiste.
C'est un peu la Brigitte Bardot, en plus aussi, elle était cinéaste. Non mais c'est une femme libérée, c'est une femme libérée dans un monde où c'est pas si facile. Et c'est une femme vraiment libérée, mais sans être frivole, c'est-à-dire elle est à la fois légère et grave. Et ça va beaucoup lui plaire à Manet. Donc Manet, il va la peindre. Elle va peindre sa famille, beaucoup de toiles en extérieur, donc des toiles vraiment intimes. Et en plus, comme ses sœurs vont se marier avant elle, elle va aller les visiter. Donc, c'est beaucoup la Normandie et l'Oise, comme Vincent Van Gogh. Les paysages des alentours de Auvers-sur-Oise sont très prisés pendant cette époque. C'est la campagne jolie, pas très loin de Paris. Renoir va la remarquer. Enfin bon, bref, ils vont tous la remarquer. Je pense que Degas, qui la fréquentait, elle et sa sœur, il était un petit peu déjà amoureux de sa sœur Edma, et que après, je crois qu'il était un petit peu quand même amoureux. Je crois qu'ils étaient tous un petit peu amoureux d'elle.
J'aimerais, mademoiselle Berthe, que vous posiez pour moi.
Êtes-vous sûr que ce sont les yeux de ma fille ?
Je ne peins que ce que je vois. Et je ne vois pas Berthe comme vous.
Ne rêve pas Berthe.
Comme le soleil féminin qui brille au milieu d'un groupe de garçons, quoi.
En tout cas, il est mentionné que Edgar Degas avait en effet une grosse admiration pour son travail, donc peut-être bien plus. Mais il est mentionné en étant là, tous ceux que tu as cités, c'est vrai qu'ils sont mentionnés comme étant des gens proches de cet artiste-là.
Oui, puis du coup, par exemple, comme on l'a dit déjà la dernière fois, Degas, il trouvait qu'il n'y avait pas besoin de critique. Le travail de la peinture, ça doit se juger entre artistes peintres. On n'a pas besoin de gens qui n'y connaissent rien pour nous donner des notes. Et en ce sens, il a vraiment... Donc lui, il a été vraiment un grand valorisateur des choses de novation. Et ces gars-là, ils n'étaient pas dérangés par la sexualité de Berthe Morisot. Ils l'ont porté comme si c'était aussi un peu leur meilleur copain. Et du coup, c'est forte de ce soutien qu'elle a fini par devenir la figure de proue du premier mouvement avant-gardiste dans l'art. Alors du coup, bravo, chapeau Berthe, parce que elle est la première à lancer ça, et après derrière elle il y aura pas grand monde. Alors il y a un salon en 78, donc en fait elle avait des toiles qui étaient acceptées au salon officiel et des toiles refusées. Donc les toiles des refusées allaient au salon des refusées. Donc comme Manet, elle était dans les deux pièces. Et en fait, en 78, quand elle a eu sa fille Julie Manet, donc, elle n'a pas fait le salon parce qu'elle devait être bien trop occupée par ses histoires de maman. Et là, elle a été remplacée par Marie Cazat. Marie Cazat, dont on pourra parler, qui, elle, est une fille de bonne famille de Pittsburgh et qui est depuis déjà 4 ans à Paris et qui veut percer dans la peinture impressionniste et qui va être une très grande aussi aux côtés de Berthe Morisot. Alors du coup, c'est merveilleux aussi de voir que Berthe et Édouard Manet ont travaillé ensemble sur des œuvres. Et du coup, j'ai une petite anecdote qui dit qu'elle avait fait le portrait de sa mère avec sa sœur. Et que ce portrait, en fait, Manet l'avait retravaillé, qu'elle avait trouvé atroce le travail qu'il avait fait et qu'elle avait dit qu'elle préférerait que le tableau soit jeté à la rivière plutôt qu'exposé. Et que du coup, avant qu'il soit exposé au salon, elle avait fait quelques retouches pour ne pas voir sa mère et sa sœur avec des traits aussi grossiers, quoi. Et sinon, moi, je trouve qu'elle a participé énormément de l'essor de la carrière de Manet, parce qu'en étant son sujet et son sujet de prédilection, vu qu'elle lui proposait des trucs insolites, tu vois, le chapeau au bouquet de violettes, la scène des toréadors, les tenues à l'éventail, la tenue en esmeralda. Enfin, c'est elle qui se déguisait comme une comédienne pour dynamiser Manet.
L'inspiration.
Et puis après, bon, ben, ils ont eu des problèmes comme tous liés à la syphilis. Du coup, ben, en fait, son mari, donc le frère d'Edouard, Eugène, sa santé a commencé à se dégrader autour de ses 50 ans. Donc lui, il avait une syphilis pulmonaire. Et elle a, je sais que sa fille Julie a eu genre une grosse grippe ou un truc comme ça, donc elle l'a soignée, elle a chopé le truc, et en plus elle aussi elle devait avoir chopé la syphilis pulmonaire de son mari. Enfin, de toute façon, c'était des trucs qui traînaient un peu partout, et particulièrement dans la bourgeoisie de cette époque. Et du coup, ben voilà, et elle est morte, de ça. Donc maintenant, voyons cette championne de son temps. Qu'est-elle devenue et comment la retrouver jusqu'à nous? Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas très souvent parler. Alors c'est très compliqué, parce que comme en fait elle a vendu très peu, et que les œuvres qui avaient été prises par des collectionneurs ou des marchands d'art ont été achetées par des Américains et sont parties à l'étranger, que beaucoup de ces œuvres concernaient sa famille et donc elles ont été léguées, qu'elle les a données aux gens de sa famille, que juste avant sa mort, elle a donné énormément de ses œuvres à ses meilleurs amis, Degas étant un de ses fidèles aussi collectionneurs, comme il avait été de tous ses amis, en fait, de Monet, de Manet. Enfin, on a retrouvé chez Degas une collection pas croyable. Et du coup, l'État n'ayant pas fait acquisition d'aucune de ses œuvres pendant qu'elle était encore vivante, eh ben, c'est commencé à devenir super compliqué. Alors, avant-hier, j'ai essayé de regarder un reportage sur une conférence sur la commissaire d'exposition d'une exposition qui était consacrée donc à Berthe Morisot, une rétrospective avec 74 œuvres d'elle au musée du Luxembourg, et qui racontait la difficulté qu'elle avait eue pour récupérer cette collection, vu que la précédente exposition où on avait vu ses œuvres, c'était en 1941. Donc tu vois, j'ai un peu de la peine à le dire, mais l'État français et les gens qui doivent s'occuper justement de maintenir les musées en éveil face aux nouvelles générations et aux nouvelles façons de peindre ou de s'exprimer ne font pas du tout leur travail. Là, c'est vraiment des incompétents rétrogrades. Et du coup, c'est très difficile de se projeter dans les musées de demain pour se dire ce qu'on va y voir. Parce que c'est pareil, je veux dire, les 6000 œuvres qui étaient refusées, qu'est-ce qu'on en sait, pareil, de l'histoire de tous ces gens-là? Enfin, moi, ça m'interloque, ça m'intéresse. Et en tant qu'artiste d'aujourd'hui, contemporain, je me demande bien à qui je vais... Voilà, je pense qu'il faut léguer tout à un musée. Enfin, il faut soi-même se dépareiller de son travail vite vers l'État français pour être sûr qu'une petite part de son travail sera sauvegardée, parce que sinon, eux, clairement, ils font pas le boulot. Quant à la place des femmes dans l'art, eh ben, aujourd'hui encore, tout reste à faire. De ce point de vue-là, clairement, les esprits ont du mal. Comme disait Rosa Bonheur, donc on a aussi une autre bonne femme super excellente, donc c'est Rosa Bonheur. Elle est née un peu plus tôt, genre dans les années 1830. Et elle s'intéressait aux animaux. Donc ce qui l'intéressait, c'était de pouvoir peindre des animaux sur le vif. Et comme elle était à Paris, elle a choisi les abattoirs. Sauf que comme c'était une femme, tout était encore sous les lois napoléoniennes anciennes. Et du coup, elle a dû demander une autorisation de porter un pantalon, pour en fait se déguiser tout simplement en homme et se fondre dans la masse des hommes qui étaient les seuls à avoir droit à rentrer dans les abattoirs de Paris. Et Rosa Bonheur, le compliment qu'on lui faisait, c'est qu'on lui disait « Oh, vous êtes une excellente peintre, vous peignez comme un homme ». Donc Rosa Bonheur s'en était mieux sortie, parce que les hommes trouvaient qu'elle peignait comme eux, que la délicatesse et la finesse et la précision de Berthe Morisot a pour beaucoup d'hommes, ils sont passés complètement à côté de son travail.
Celles qui ont voulu être artistes l'ont payé trop cher.
Je ne vis plus dans un roman. Je me fiance à Adolphe Conti.
L'art, c'est à la fois fabuleux, des fois un petit peu triste parce qu'il y a beaucoup d'injustices, et que c'est vrai que cette idée d'être célèbre après sa mort, tu vois, de ne pas avoir la chance d'avoir une reconnaissance de son vivant et de devoir même faire le deuil de cette reconnaissance, c'est-à-dire travailler ardemment en se disant que bon ben voilà, tu es à côté de la plaque et tu n'attireras jamais les regards, il faudra attendre 50 ans après ta mort pour que peut-être quelqu'un s'intéresse à ton travail.
C'est vrai que c'est super triste.
Et ça, c'est super triste. Et ça, je pense que pareil, ça doit arrêter plein de gens, parce que faudrait être vraiment naïf ou fou pour espérer, surtout en tant que fille, un autre destin.
Et c'est aussi parce que du coup, les femmes étaient victimes de ces forts préjugés. Enfin, ça fait un peu écho aussi au sujet de cette œuvre-là, le berceau, quoi.
Ouais, la mère.
Ouais, justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, ces moments familial, intimes, femmes et tout. Et du coup, ça fait quand même vraiment écho à ça, quoi. C'est peut-être aussi un peu la raison du sujet d'emmener justement le fait de que les femmes sont victimes de forts préjugés. Et elle le dit là, il y a une petite citation où elle dit: je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux.
Bien sûr, tu vois, donc ça reprend comme la pub parce que je le veux bien. Ouais. Et donc, tu vois, d'années on a affaire à une femme en avance sur son temps. Hein. Donc là, il y avait un... Je vais lire une petite critique positive de son travail.
Ah, des critiques positives, enfin.
Oui, c'est-à-dire qu'elle, quand même, elle en a eu, hein, sinon elle ne serait pas maître incontesté d'un sûr mouvement d'avant-garde. Hein. Mais donc, les formes sont toujours vagues dans les tableaux de Madame Morisot, mais une vie étrange les anime. L'artiste a trouvé le moyen de fixer le chatoiement, les lueurs produites sur les choses et l'air qui les enveloppe, le rose, le vert pâle, la lumière vaguement dorée qui chante avec une harmonie inexprimable. Nul ne présente l'impressionnisme avec un talent plus raffiné et avec plus d'autorité que Madame Morisot. Donc après, quand elle va vraiment être reconnue par ses copains et dans son mariage, et qu'elle va avoir sa gosse et qu'elle va quand même pouvoir continuer à peindre avant d'être malade, là, elle va commencer à s'intéresser aux fusains, aux pastels, aux nus.
À l'aquarelle aussi.
Sa peinture, je trouve, prend une tournure de plus en plus renoiresque et très jolie. Et en plus, elle commence aussi à travailler à fond ses dessins préparatoires au fusain, en recommençant. Donc, elle était comme moi, elle s'arrêtait pas tant qu'elle n'était pas satisfaite. prête à tout balancer, enfin c'était du genre à tout repeindre en noir ou à balancer l'œuvre au feu pour en recommencer une autre. Elle a un côté perfectionniste et jusqu'au boutiste qui m'émeut. Et puis on voit que c'est une femme forte de caractère, enfin sans être agressive. Enfin, elle est vraiment dans le, tu vois, l'autorité et la douceur. Une main de fer dans un gant de velours, quoi. Et je pense qu'elle devait être super chouette. Enfin, j'aurais vraiment bien aimé échanger et parler avec cette femme. Et quand tu vois le nombre, enfin, les gens qui ont pu échanger avec elle, être à sa table et être impressionnés par sa culture, sa vivacité. Enfin, c'est vraiment un personnage à part entière qui a quand il dit justement qu'une vie étrange anime ça, tu vois, un côté fée, quoi, un côté féerique et mystérieux que j'adore. Et dans les portraits que Édouard Manet a fait d'elle, où on a son regard, tu plonges dans les quelques traits de brun et de noir qui forment sa pupille et son iris, et voilà, t'es bien. Et c'est joli qu'elle ait mis aussi en avant la féminité, enfin la femme à l'intérieur, et la femme, la chasse aux papillons, les enfants, les promenades sur les bords de l'Oise, le port. Et puis en plus, c'est des silhouettes qu'on connaît ou qui sont sur lesquelles on peut mettre des noms. Et on peut aussi suivre par les portraits qui ont été faits de sa famille, par Degas ou par Manet, enfin, puisque c'était la même famille. Donc, de suivre une petite généalogie et de se refaire en ayant les portraits, toute une petite scénette de famille avec tous les gens recomposés. Là, tu as un portrait de Renoir, de la belle-sœur. Là, tu as un portrait du frère par le beau-frère, le frère par la femme. Là, les enfants faits par Renoir. Là, les enfants par Fantin Latour. Enfin, je délire un peu, mais c'est exactement ça, quoi. Donc on sent aussi le plaisir d'être ensemble, l'intimité, les vacances. Et malgré tout, ces gens-là, il faut le redire, donc là on est dans les années 74, mais ils ont tous connu la Commune de Paris. Hein, en 71, Paris, c'était pas marrant. Et la plupart de ces gars-là, ils sont rentrés dans l'infanterie, la cavalerie et tout ça. Donc la plupart se sont battus. Et Berthe Morisot, à laquelle on avait dit « Sauve-toi chez tes sœurs », en fait, elle a préféré revenir à Paris. Elle a vu son atelier dévasté, abîmé par la guerre, donc elle a dû quitter son atelier. Du coup, c'est là qu'elle est allée poser pour Manet, et que lui, qui aussi était malade à ce moment-là, parce que, lui, on le sait aussi, il avait la syphilis, elle a posé pour lui remonter le moral et tout ça. Et donc, tu vois les copains qui s'encouragent par le biais du truc, enfin voilà, par le moyen de la peinture, guérison, bonne humeur, pas tomber en dépression, se remettre de la guerre. Voilà, c'est une psychothérapie de groupe aussi. Et cette recherche de la lumière, c'est aussi sortir de l'obscurantisme, sortir de l'empire, enfin... On peut voir tous ces petits points de lumière et de taches et qui va faire toute leur attention, c'est-à-dire voilà, toute une population qui va lever ses yeux vers le ciel et la lumière et espérer un avenir meilleur, plus équitable, plus ouvert. C'est déjà par la peinture les fondements d'une république où... Les bourgeois sont peints au même niveau que les blanchisseuses. Par exemple, elle va avoir aussi sa période Émile Zola, Berthe Morisot, où elle va peindre des blanchisseuses, des gens de la butte et tout ça, s'intéresser aux gens du peuple, aux petites gens. Donc quand tu peins une blanchisseuse de la butte et puis que tu la mets à côté de ta belle-sœur en robe de bal, ça veut dire que dans ton cœur, tu as autant d'affection pour les petites gens que pour la bourgeoisie.
Donc, tu ne fais plus de différence sociale.
Voilà, tu essayes de gommer la fracture sociale et de faire des stars des petites gens et de montrer par la caricature les défauts des bourgeois. Alors c'est génial parce que tout ça, sans être dit, tout en finesse, tout en petit rose pâle et vert pâle, comme il dit le critique, et ben en fait, tu fais de la politique et t'ouvres aux yeux de la bourgeoisie qui continue d'acheter et de collectionner. Ben t'ouvres les yeux de ces gens-là, de ceux qui font le monde, de ceux qui décident pour toi le monde de demain dans lequel tu vas vivre. Donc il y a un boulot de fond là-dedans qui est idéologique, philosophique, poétique, des visions. C'est des gens qui ont une vision d'un monde meilleur, égal, où la place de la femme est belle, où c'est beau de voir cette femme avec son berceau, c'est splendide. Les quelques traits qui font la tête du petit bébé, mais c'est merveilleux. Et il y a des vieux gars de la banque et des du Conseil d'État qui ont fini par chialer devant cette image. Donc c'est aussi, on prépare aussi les papas de demain à s'occuper des choses de la maison, hein. Les papas qui sont devenus, là, dans les années 80, les papas-mamans, la femme, elle va travailler, et c'est le gars qui poupine au berceau. Bon, bah, y a aussi tout un peu la traduction de ben, voilà, le boulot que tu vas avoir à faire. Et en fait, c'est beau, c'est joli. Partir à la chasse aux papillons avec ses enfants, c'est plus sympa que d'aller à la chasse à l'éléphant avec le roi Léopold des Belges. Hein. Donc, voilà. Donc j'aime beaucoup, donc voilà, on aime tous beaucoup Berthe Morisot, on lui rend hommage et on rend hommage aussi à son grand courage parce que ben voilà, nager à contre-courant avec une poignée de gaillards sur un radeau artistique d'avant-gardisme, c'est franchement pas facile.
Mais il faut déjà de la détermination à notre époque, alors à la sienne, j'imagine que c'était vraiment, il fallait, comme tu disais, tu l'as décrit un peu en ayant cette force de caractère-là. Et c'est clair que c'était vraiment ce qu'il fallait pour pouvoir justement...
Ben voilà, et t'as tout bon, et vive les femmes qui sont comme ça et qui se laissent pas influencer ni même impressionner.
D'ailleurs, t'as dit de Berthe Morisot qu'elle devait être, qu'elle c'était une artiste pleine de vivacité et de culture. Et ben je peux te dire que tu es une artiste pleine de vivacité et de culture également, Carotte.
Et ben merci encore. Merci, ben de rien. Ben merci à vous les auditeurs arty de Radio Diwa, et puis bah, on se retrouve vendredi prochain pour une autre œuvre, un autre artiste. J'étais un petit peu fatiguée aujourd'hui parce que bon, j'ai été soumise à des fortes fêtes, hein, et comme tu sais qu'il me faut un petit temps de récupération, là j'ai pas encore eu ma semaine de récupération avec mes heures de sommeil chaudes. Du coup, ouais, il y avait peut-être un peu moins la pêche, mais sachez que voilà, n'hésitez pas à aller chercher, donc comme vous le disait Mallory, à aller sur votre ordi et voir les œuvres dont on parle de vos propres yeux.
Et c'était le premier épisode justement sur une artiste féminine et ça fait plaisir, on y reviendra, on en trouvera d'autres et on aura d'autres l'occasion encore une fois de vous montrer un peu le courage que se trouve dans nombre de femmes artistes qui ont fait ce qu'il fallait pour avoir une petite place aussi minime soit-elle dans le vaste monde
des arts, ouais, des arts des garçons. Et bah, Marie Cazat, on va lui faire une place, je l'ai peinte aussi et je l'adore. Je l'adore. C'est elle aussi, c'est une super bonne femme.
Et est-ce que ça te parle, Marie Braquemont ?
Non, bah non, je ne connaissais pas cette femme qui n'est pas parvenue jusqu'à moi, donc je vais aller voir après l'émission.
Eva González ?
Eva González, je crois qu'elle a servi de modèle à Manet, parce qu'il y a eu un tableau qui lui a posé problème, où justement il n'arrivait pas bien à faire la figure de Eva González, et que Berthe était venue l'aider. Et ça, je ne savais pas, par exemple, qu'il retravaillait les peintures des uns et des autres, ou que... Enfin, je n'avais pas appris avant cette émission la conscience des échanges visuels et de couleurs entre le travail de Berthe et le travail de Manet. Sur, par exemple, le balcon, la balustrade, avec cette barrière verte-là qu'on retrouve dans un autre tableau. C'est vraiment marrant, ce jeu de ping-pong. Et comme Loreuil, oh, tac, il a bien aimé ça dans le tableau du beau-frère ou de la belle-sœur, tac, elle va le reprendre sur son prochain croquis parce que cette barre transversale verte, ça lui plaît à l'œil. Donc les tableaux, les œuvres comme ça sont à étudier à plusieurs niveaux. C'est comme des calques, il y a plusieurs niveaux d'interprétation d'une œuvre, du plus physique et technique jusqu'au plus philosophique et spirituel. Voilà, c'est des fenêtres. Et c'est vrai qu'il faut les voir en grand. Parce que là, maintenant, vous pouvez agrandir sur votre ordi pour voir les petites touches de pinceau. Parce que Berthe, elle fait partie de ces artistes qui aiment bien qu'on voit les petites touches de pinceau.
Ou suivre ton conseil d'aller dans les musées pour voir les œuvres aussi.
Oui, toujours, évidemment. Mais ça, c'est cher déjà, les musées. Je veux dire, j'ai rien contre l'outil internet et les balades au Louvre et tout. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, je pense que c'est très bien fait. Là, quand même, on commence à avoir des produits. Des produits d'internet de super bonne qualité et tout le monde ne peut pas se permettre de faire un voyage à Paris.
Certes.
Et puis en plus, c'est bien de se spécialiser, enfin, c'est bien de faire des petites avancées, d'en choper un comme on fait là, en prendre un et essayer d'aller jusqu'à la fin de la compréhension de l'œuvre comme un paysage que tu aurais tellement vu que tu connaîtrais par cœur et d'avoir bien ressenti tous les sentiments que ça t'évoque. Et du coup, merci Malo pour cette très chouette émission consacrée à Berthe Morisot.
Merci à toi. C'est le 5e épisode d'Artichaut. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les anciens sur www.rdiwa.fr. Vous tapez Artichaut, Artichaut, A-R-T-Y-S-H-O-W. Et entre autres, on parle de Courbet, de Gauguin, de Manet. Et donc
et de Berthe Morisot.
Et de Berthe Morisot.
Ouais, youpi.
Merci, à très bientôt.
Bon week-end à vous, à très vite les artichauts.
Les artichauts.
Les artichouchous.
Vous écoutez RDIWA et c'est extra.